Le webtoon. Mais qu'est-ce que donc que le webtoon ? À la base, le webtoon est un manhwa publié en ligne. Plus largement, le terme s'applique à des bandes dessinées en ligne, pas toujours d'origine sud-coréenne. Le portail web coréen DOM a créé un service de webtoon en 2003, tout comme Naver en 2004. Ces services publient régulièrement des webtoons qui sont disponibles gratuitement à toutes et tous. Selon David Welch de Bloomberg, les bandes dessinées représentent un quart de toutes les ventes de livres en Corée du Sud, tandis que plus de 3 millions d'utilisateurs et utilisatrices coréennes ont payé pour accéder à des manhwa en ligne, et 10 millions d'utilisateurs et utilisatrices lisent des webcomics gratuits tous les jours. Avec l'avènement du smartphone et de la tablette, les webtoons ont également migré vers de nouvelles plateformes telles que les applications. Avant 2014, la plupart des webtoons n'étaient disponibles qu'en anglais grâce à des traductions non officielles de fans. En juillet 2014, la filiale de Naver, Line, a commencé à publier en anglais des traductions de webtoons populaires via le service Line Webtoon. Aujourd'hui, le webtoon est un média très populaire même en France. Et l'on différencie les webtoons Canva des webtoons originaux. Leur différence étant que les originaux ont un contrat d'édition avec la maison d'édition Webtoon. Kiri est donc une autrice havraise très connue de la plateforme de Webtoon France pour son webtoon intitulé « Mon vœu le plus sincère ». Elle a aujourd'hui accepté de répondre à mes questions pour Westrack Radio. Bonjour Kiri, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ?
Bien, moi c'est Kiri, je suis une autrice de bande dessinée et de webcomic de 24 ans. Je suis havraise. Et je suis l'autrice de Mon vœu le plus sincère qui va bientôt sortir en papier et que vous pourrez retrouver dans toutes les librairies de France, bien entendu.
Est-ce que tu pourrais nous parler de la genèse de Mon vœu le plus sincère ?
Mon vœu le plus sincère, à la base, c'était juste un projet personnel où je voulais faire quelques planches de bande dessinée, mais vraiment des petites histoires en une page sur Happy Cranberry, qui est une jeune humaine et qui vit une vie en fait assez banale, mais voilà, qu'il arrive des petites bricoles. À la base, l'objectif de base était juste de faire rire en une page. Et je voulais le faire en version papier, donc je commençais à monter un projet éditorial. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une grande plateforme de webcomic qui s'appelle Webtoon, qui un jour a lancé le premier concours Webtoon. Et c'est tombé pile quand moi j'étais en train de faire mon projet. Donc je me suis dit, je peux peut-être tenter un truc. Il me restait que 3 jours pour lancer le projet. Je me suis dit, bon, je vais tenter quand même. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai repris mes planches, je les ai remaniées pour que ça colle au format webcomic, qui est très différent, très différent le format Webtoon. Et j'ai ajouté un fil rouge avec un génie. Et bah c'est comme ça qu'est né Mon vœu le plus sincère, en fait.
Donc t'as gagné le concours par la suite ?
Eh bien, pas du tout !
J'avais pensé que t'avais gagné !
Non, alors, j'aurais adoré, hein. En plus le prix était plutôt intéressant, un petit 10 000 euros dans la poche, comme ça on aime bien. Mais non, pas du tout. En fait, c'est mes collègues Diane Truc et Rutil, qui sont les autrices de Colossal, qui est un excellent webtoon comédie aussi, qui ont remporté cette catégorie-là. Très clairement, quand j'ai lu les premiers chapitres de leur webtoon, je me suis dit, bah, en fait, c'est bon, je sais qu'on sait tous que c'est elles qui vont l'emporter, c'était vraiment excellent. Par contre, moi, ce que le concours m'a apporté, au-delà des primes de participation, c'était de la visibilité. Et surtout, moi, j'ai découvert ce format-là, à ce moment-là. Et je suis tombée amoureuse du format, de la proximité avec le public. C'était génial. Tu postes un épisode, t'as 50, 100 personnes qui vont te dire « Ah, j'ai adoré ce moment-là !» Bon, t'en as aussi 50 qui vont dire « C'était trop court !» Mais voilà, j'ai découvert ça comme ça, j'ai adoré, et je me suis dit « Bah, en fait, vas-y, c'est bon, c'est là-dessus que je veux partir, en fait. La BD pas de pied, c'est bien, mais c'est ça que je veux. »
Parce qu'à la base, tu te destiné plutôt à un format papier, et c'est vraiment grâce au concours que tu t'es dit c'est le webtoon, absolument le webtoon, et maintenant tu te verrais plus du tout aller vers un format papier pour commencer.
Bah en fait le truc c'est que le format papier aujourd'hui c'est alors c'est excellent hein, et quand on a grandi avec ça, j'ai beau être jeune et avoir grandi avec l'ordinateur etc, internet, j'ai connu la BD, le manga grâce aux versions papier dans la bibliothèque et tout, donc il y a ce côté un petit peu aboutissement, que ce soit pour moi ou pour mes proches. Voilà, mon grand-père aujourd'hui, lui, je sais qu'il est super content parce que il pourra prendre le livre entre ses mains, quoi. Voilà, je suis une autrice. Mais est-ce qu'aujourd'hui, moi, je me tournerais vers ça en premier lieu? Ben, je sais pas. Parce que c'est hyper saturé aujourd'hui le marché. Pour avoir un revenu avec ça, il y en aura toujours. Parce que voilà, quand tu vends ta série à une maison d'édition, voilà, derrière, t'as des droits qui sont rachetés et tout. Mais pour que ce soit un revenu stable et qui te permette de vivre, c'est beaucoup plus risqué. Aujourd'hui, le webtoon, j'en vis. Tous les mois, j'ai ma paye qui vient, quoi.
Et je voulais savoir aussi comment ça se passait le travail du passage du numérique à la version papier.
Ça dépendra de chacun. Dans mon expérience personnelle, du coup, j'ai eu la chance, on m'a proposé, on m'a dit, est-ce que tu veux t'occuper de réarranger arranger les cases. Pour expliquer, pour les personnes qui peuvent écouter et qui ne connaissent pas vraiment le format webtoon, c'est adapté spécifiquement au téléphone. Donc, on lit vraiment l'histoire en bande, qu'on défile, on descend. L'histoire, on la descend, on tourne pas des pages. Donc, les cases sont organisées comme telles. Elles sont très espacées. T'essayes d'en avoir une ou deux maximum par écran de téléphone, on va dire. Voilà. Ce qui, du coup, n'a absolument rien à voir avec le format BD ou manga ou comics. Donc, du coup, on m'a dit, voilà, est-ce que tu veux t'occuper du réarrangement des cases ou est-ce que tu nous fais confiance? On voit avec un studio. Je leur ai dit, écoutez, vous m'avez dit, c'est censé sortir en octobre 2023. Si vous voulez que ça arrive, pas moi qui dois m'en occuper parce que moi, il sort pas avant 2025, le truc. Du coup, c'est le studio Makima qui s'en occupe. Donc, ils ont tout réarrangé. J'ai vu les planches. Il y en a, elles sont toutes bien. Mais il y en a, elles sont tellement magnifiques. J'ai vraiment, et je dis pas ça pour le vendre, le truc, c'est que, comme beaucoup d'auteurs, je suis satisfaite de mon travail. Mais j'ai beaucoup de mal à en être fière parce que je vois toujours après quelques heures les défauts et tout. Et là, j'ai redécouvert mon travail et je l'ai aimé. Et c'était, ça m'a fait tout drôle parce qu'ils ont vraiment fait un super bon travail. Et du coup, moi de mon côté, par contre, le temps que je n'ai pas mis dans le réarrangement des cases, je l'ai pris pour refaire certaines cases. Les premiers épisodes, par exemple, que là on peut trouver actuellement sur Webtoon, datent de 2020. En 2023, ça fait du coup 3 ans que je dessine entre 50 et 70 heures par semaine. Donc j'ai un peu progressé. Et c'est pas tant la progression qui me gênait, parce que c'est normal de débuter à un niveau, et puis voilà, au fil des tomes, on voit la progression, il y a aussi un côté satisfaisant. Mais c'est le fait que je connaissais pas encore mes outils, et que du coup, il y a des incohérences d'une case à l'autre, en termes de, par exemple, de texture de trait. Tel personnage va avoir ses cheveux un peu plus blonds sur une case, ils vont être un peu plus bruns, enfin châtains dans l'autre, voilà. C'était ces trucs-là que je devais réarranger pour avoir au moins quelque chose de cohérent sur tout le tome. Et si je voyais un personnage qui avait vraiment une sale tête, j'ai fait, ouais, bon, je refais ça quand même, voilà quoi.
La version du webtoon sort le 19 novembre, donc ça tout le monde...
Octobre.
Il y aura les 19 premiers épisodes donc du webtoon version numérique dans le format papier. Et je voulais savoir aussi s'il y avait quelque chose en plus en fait. Est-ce qu'il y a des petits épisodes supplémentaires,
oui.
Ce genre de choses.
Là-dessus, j'étais vraiment très contente de travailler avec Kotoon. On était sur la même longueur d'onde sur le fait que les lecteurs, s'ils veulent lire l'histoire, ils vont sur webtoon. Ils la payent pas. Bon, alors il y a le côté tu collectionnes un peu, donc t'as le côté voilà, t'as un beau produit fini, Kotoon fait des produits absolument magnifiques. Seule la mort attend la vilaine, c'est un webtoon en version papier édité chez eux, qui est mais d'une beauté, c'est incroyable, tu veux l'avoir chez toi, tu le lis même, enfin si tu le lis, mais tu peux ne pas le lire et juste le mettre parce qu'il est beau quoi. Et voilà, on était d'accord sur le fait qu'au-delà d'un objet de collection très beau et très fini, si tu veux le vendre, faut quand même proposer quelque chose de nouveau au lectorat. Et du coup, alors je leur disais oui, bon je pense que je peux faire 4-5 pages de petits gags en plus, parce que voilà, j'ai des petites idées de blagues que j'ai pas pu mettre dans l'histoire parce que ça coupait le rythme, ça avait pas de sens. Mon but le plus sincère, c'est une comédie, mais il y a quand même une histoire de fond, donc je peux pas faire que des blagues. Et dans le train, pour rentrer au Havre, je me suis dit, attends, j'ai trop des idées là qui fusent. Et en fait, du coup, on va avoir un chapitre bonus dans le tome 1, dont la suite sera dans le tome 2. Peut-être une partie 3 dans le tome 3, parce que ça ne s'arrête pas. Sur l'enfance de Prince, qui est le génie que Happy rencontre.
J'aimerais rebondir parce que tu viens de dire que donc Webtoon était une plateforme gratuite, donc les personnes peuvent le lire gratuitement. Toi, quel est ton lien donc avec le lectorat, du point de vue de cette gratuité en fait? Les personnes ne sont pas obligées d'acheter, ne sont pas obligées d'aller dans des bibliothèques pour te lire. Est-ce que tu trouves que le lien entre le lectorat et l'auteur ou l'autrice est changé par rapport à justement cet objet que l'on achète?
C'est une question qui est hyper intéressante et je vais diviser ma réponse en deux. En premier lieu, ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, je vais nuancer les propos que j'ai dit avant. C'est gratuit, mais si tu veux lire des chapitres d'avance, tu peux payer. Voilà, c'est vraiment pas très cher, surtout par rapport au prix d'un livre en bibliothèque. Donc du coup, voilà, tu peux du coup facilement faire la différence entre le lectorat qui lit gratuitement et ceux qui vont investir pour avoir la suite. Et donc du coup, la majorité des gens qui payent pour avoir la suite sont des lecteurs qui sont très investis, qui vont te suivre sur les réseaux, que tu vas retrouver très régulièrement en commentaire, parce que du coup ils peuvent commenter en avance, donc leur commentaire a plus de visibilité, donc ils sont en top com, etc. Et en fait du coup tu commences à te faire une base de fanbase qui est hyper solide, parce que ces gens-là, ils choisissent d'acheter, ils sont pas obligés de le faire, ils sont pas si je veux ma suite, je suis obligé de payer, non, eux c'est vraiment que du choix et aussi du soutien de leur part. Du coup voilà, il y a un lien très fort qui se fait avec ceux qui payent, mais tu as aussi ton lien avec ceux qui payent pas, parce que s'ils payent pas, c'est qu'ils ont pas forcément d'argent aussi, donc voilà, on va pas commencer à critiquer les inégalités, enfin voilà. Mais voilà, il y a ce lien-là qui se crée et qui est super intéressant. Et pour moi, l'autre point, du coup, qui est plus négatif et peut-être une critique de ma part, c'est que le fait d'avoir à disposition autant de travail gratuit de la part des... enfin, qui est mis à disposition par les auteurs pour les lecteurs, c'est aussi que derrière il y a une dévalorisation du travail. Et que le lectorat, une partie du lectorat, je nuance, que derrière les web-séries qui sortent, un auteur qui est payé, certes, c'est normal, c'est un métier, mais qui galère, qui galère bien toutes les semaines à sortir ses épisodes à temps, voilà, que la personne travaille, ils en viennent à oublier ça, parce qu'on leur met dans la bouche, parce qu'il y a ce côté c'est gratuit, tu prends ce que tu veux, vas-y, fais ton truc, fais tes courses. Et donc du coup, il y a ce côté-là qui est plus problématique et qui est lié directement à la problématique du webcomic dans le monde aujourd'hui. C'est une nouvelle dynamique économique. Voilà, moi, je pourrais pas m'étendre sur le sujet, j'ai pas fait des études d'économie, mais mon avis en tant qu'autrice, voilà, c'est celui-là.
Oui, sachant qu'il y a des personnes qui publient sur la plateforme, mais qui ne sont pas payées.
C'est ça. Ça, c'est la partie canvas, du coup, de Webtoon. Mon but le plus sincère, c'est dans la partie originale. Donc, c'est les auteurs qui sont sous contrat, qui sont rémunérés par Webtoon, qui ont des obligations en termes de timing, de rendu et de ligne éditoriale, on va dire. Et du coup, l'autre partie sur Webtoon, ça va être la partie canvas où n'importe qui peut poster, comme YouTube. Voilà, n'importe qui peut se dire, j'ai une petite histoire en tête, je la poste, voilà. Et ce que je nuancerais, c'est que du coup la partie canvas est nommée comme étant la partie amatrice de la plateforme. Nuançons ce terme. Il y a des auteurs sur la partie canvas qui sont des auteurs incroyables, qui ne veulent pas de contrat chez Webtoon original, mais qui l'utilisent juste la plateforme pour avoir de la visibilité, et d'autres qui vont être refusés, mais c'est pas une question de niveau, c'est une question de l'histoire n'a rien à voir avec le public visé par Webtoon. Et donc du coup, eux, ils vont pas tenter de dire on te paye pour ce chef-d'œuvre qui aura 1000 lecteurs. Ce serait trop risqué.
Toi, en termes de délai, comment tu travailles? Parce que je suppose que c'est pas du tout comme pour la BD franco-belge où l'éditeur va te demander pas forcément en fait toutes les semaines d'avoir un chapitre complet de ta bande dessinée. Comment ça se passe cette dynamique de travail?
Quand tu signes un contrat avec Webtoon, au préalable tu leur as envoyé ton dossier avec le résumé de ta série. Tu peux pas mettre tous les détails, mais en gros pour que l'éditeur ou l'éditrice y voit clair, tu mets ton début, tu mets ta fin, tu mets les étapes importantes au milieu. Et c'est comme ça qu'on fonctionne avec mon éditeur, salut Michel. Je lui ai envoyé toute la liste des éléments importants de ma saison, et ma saison je la divise en arcs. Par exemple, ma saison 2 avait 50 épisodes, j'ai fait 5 arcs de 10 épisodes, et je disais, dans chaque arc, il y a telle chose et machin, et la saison elle se termine comme ça. C'est un fonctionnement qui lui convient, qui me convient aussi, parce que ça me permet d'avoir un squelette scénaristique assez solide pour savoir que ça marche, mais avoir assez de lest pour pouvoir mettre entre deux trucs d'autres idées qui me viennent au storyboard. Si je suis sur un épisode et je me dis, oh mais je suis bête, j'ai pas pensé à cette blague, elle est géniale, mais ça va me prendre 55 cases, et je la fais quand même, en me disant, c'est pas grave, mes autres parties du squelette, je vais les tasser entre eux, et voilà. Donc ça, c'est toute la partie base du travail. Mais une fois que tout ça s'est validé, faut partir. Faut les faire tes épisodes. C'est là que ça devient un petit peu compliqué. Le lundi, pour donner un exemple, je fais mon storyboard et je commence le croquis. Le mardi, je termine le croquis. Le mercredi, je fais l'ancrage. J'essaye de tout faire, ce qui est pas forcément le cas, parce qu'on rappelle, 60 cases, c'est long. Le jeudi, je fais mes aplats, potentiellement mes ombres. Le vendredi, je fais mes lumières, potentiellement mes décors. Et le samedi, je fais les finitions. Spoiler, ça se passe jamais comme ça. Les trois quarts du temps, je fais une nuit blanche dans la semaine, je termine le dimanche à pas d'heure, et le lundi, je repars. Donc je me suis pas forcément reposée. Il y a des semaines miraculeuses, et j'insiste sur ce mot, où en fait, j'arrive à caser deux nuits blanches dans la semaine, et donc du coup, j'ai mon samedi et mon dimanche. Mais ça, c'est extrêmement rare. Et ça va être sur des épisodes classiques, qui vont pas être importants avec un énorme tournant, où je dois mettre plein d'efforts dans la mise en scène, dans mes décors, dans mes actions et tout. Voilà. Donc ouais, on va avoir mes épisodes les plus faciles, les plus simples à faire, vont me prendre 50 heures, mais du coup, c'est le très grand minimum. Je vais plus sur du 60 heures, ouais. Et sur des épisodes très importants comme un final de saison, par exemple, je vais sur du 80 heures.
C'est une charge incroyable de travail, quand même, à la semaine surtout, toute seule.
Saison 1, je m'étais très mal organisée, j'ai fait un très gros burn-out, j'en pouvais plus, mon corps m'a lâché, malgré le fait que j'avais essayé de m'organiser pour éviter ça. Mes deux assistants qui travaillaient avec moi, j'ai Alexia et Yurei Enko, et j'ai Alexia s'occupait de mes aplats, et Yurei s'occupait de mes ombres et de mes lumières. Et ça m'aidait énormément, ça m'a sauvé ma saison, de toute façon, je serais pas allée au boussant. Et en fait, pendant ma saison 2, je me suis dit, Kiri, excuse-moi, tu arrêtes les conneries. On ne va pas repartir là-dessus. Ta saison 1, elle faisait 35 épisodes, enfin 36. Ta saison 2, elle en fait 50. Donc prends les choses en main, tu t'organises. Voilà, tu arrêtes les bêtises. Je me suis complètement métamorphosée. J'ai commencé à travailler en extérieur le lundi pour pouvoir faire mon storyboard à l'extérieur. Donc comme ça, je suis forcée de le faire. Je vais dans un café ou dans une brasserie. Et après ça, ça coule tout seul en fait dans la semaine. Du coup, j'ai plus besoin de bosser avec mes assistants actuels. Sauf dans des épisodes très importants. Dans la saison 2, il y a une scène de procès dans un lieu qui est tout nouveau et puis super beau. Là, j'ai dit à mes assistants, écoutez, il va être un peu long à faire cet épisode, j'ai besoin de vous, et puis voilà.
Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux?
Sur Instagram, essentiellement, c'est là que je suis la plus présente, c'est Kiri Artvocado, et sinon sur Twitter avec U-du-bas Kiri. C'est vraiment les deux endroits où je suis le plus souvent avec, Webtoon, mais c'est pas vraiment un réseau social, quoi.
Et est-ce que pour cette fin d'interview, est-ce que tu pourrais nous faire des recommandations de Webtoon que tu aimes énormément?
Alors, je vais diviser. Là, sur la plateforme anglaise, je vais citer Not So Shoujo Love Story, qui est Not So Shoujo Love Story. Je le redis parce que je l'ai dit très vite. Qui est une comédie qui est à mourir de rire. Je suis une très grande fan de l'auteur de Kuryoku, qui est l'autrice et qui a un humour incroyable. Et sur la plateforme française, je vais évidemment parler surtout des webtoons de mes collègues qui font un travail incroyable. J'ai cité Colossal. Si on va dans les canvas, je citerai aussi, je crois que ça se prononce, Poena Kinis, qui est incroyable, qui est une œuvre exceptionnelle de Teaspoon. Je parlais tout à l'heure des webtoons sur la plateforme Party Canvas qui se démarquaient par rapport rapport à leur style graphique qui sort complètement de la lignée de Webtoon. Mais alors celui-là, c'est de la dark fantasy. Oh là là, c'est incroyable. Teaspoon fait un travail exceptionnel dessus. En très grande priorité, Gradalis, qui est les contes du roi Arthur revisité. C'est gay et c'est bien. Non, vraiment, au-delà de ça, c'est génial. Le storytelling de Koshei, qui du coup est l'auteur qui travaille dessus, est exceptionnel. Graphiquement, c'est beau, c'est vraiment génial. Je l'ai commencé très tardivement, parce que quand tu es auteur de webtoon, ben, dans ton temps libre, rarement tu lis des webtoons, mais ça reste quand même quelque chose de très important, et surtout, on m'en avait beaucoup parlé. À force de faire des conventions avec Koshei, des événements à Paris et tout, je me suis dit, bon, je vais quand même commencer à lire, parce que je vois ses illustrations et tout, cette meuf avec un cache-œil, j'aime bien. Donc je conseille énormément Gradalis, Sunshine aussi, qui est excellent, le travail de Tom Popo et qui est vraiment super.
Merci beaucoup, Kiri, pour cette interview. Le premier tome de la version papier de Mon vœu le plus sincère sort donc le 19 octobre prochain et Kiri sera en dédicace à la FNAC pour la sortie de sa bande dessinée la veille de la sortie officielle, à savoir le 18 octobre. En attendant, vous pouvez retrouver Mon vœu le plus sincère sur l'application Webtoon que l'on peut télécharger sur toutes les mobiles. C'était Nausicaa pour Westrack Radio.